Vous écoutez RTL.
La voiture, c'est pas seulement un moyen de transport. Elle est pour certains leur prolongement. Elle a un corps et même une âme. Et c'est pas évidemment les visiteurs et les professionnels du monde de l'automobile à Paris qui vont nous dire le contraire. Bonsoir, Jacques Brandstein.
Bonsoir.
Bienvenue au micro de la curiosité. Vous êtes écrivain et journaliste au magazine GQ. Et vous publiez Cars and Stars, duo mythique, c'est chez Grund Edition, où l'on découvre les relations vraiment passionnelles entre des stars et leurs bolides. Avoir une belle voiture, c'est quoi ? C'était en tout cas le symbole de quoi pour ces artistes ?
À mon avis, les artistes qui dont moi je parle dans mon livre, ils aimaient vraiment l'automobile. Je pense que quand on commence à toucher des beaux cachets, on se dit tiens, je vais m'acheter une voiture de sport. Mais en fait, c'est très pénible les voitures de sport. Je veux dire, ça démarre pas.
Enfin, ça pollue.
Autrefois, à l'époque de Steve McQueen ou de Pollier, ils en avaient rien à faire. Mais ou de James Dean, ça démarrait pas l'hiver. Il fallait tout le temps être au garage. Bref, toutes les stars s'en achètent une. La plupart s'arrêtent là. Et puis il y a quelques vrais passionnés comme Steve McQueen. Qui, en fait, il était star de cinéma, mais s'il avait eu le choix, il est possible qu'il aurait préféré être pilote.
Alors, grâce à vous, Jacques Brandstein, on va monter dans des voitures de rêve, des voitures mythiques. Allez, une Ford Mustang GT Fastback et puis une Porsche Spyder 550, la classe, quoi.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL. Jusqu'à 22h.
Elle donne le signal. Il faut se diriger vers le bord de la falaise. Et le premier qui saute est un dégonflé. D'accord ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les duos mythiques, les stars et leurs voitures, c'est ce que l'on vous fait découvrir ce soir avec notre invité, le journaliste et écrivain Jacques Brandstein. Jacques, si je vous fais écouter ça. Est-ce que vous reconnaissez le rugissement de la voiture ? De quelle voiture il s'agit ?
Alors, il s'agit de la Ford Mustang de Steve McQueen dans Bully. Mais là, j'étais beaucoup aidé parce que... Il y avait la musique avant quand même, aidait vraiment beaucoup. Mais à l'époque, on n'avait jamais mis le bruit des voitures aussi fort. C'est vraiment Steve McQueen qui a insisté pour dire « Non, mais moi, je veux pas qu'il y ait de la musique pendant la poursuite. Je veux qu'on entende les moteurs. » Alors, si je voulais faire le snob, je vous dirais « On reconnaît très bien » que la Ford Mustang a un bruit plus rond et que ses poursuivants, les méchants ou une Dodge Charger, pardon, les noms se ressemblent, qui a un bruit plus aigu. En fait, juste moi, ce que je reconnais, c'est que c'est très très fort quand on voit le film, et c'est à ça qu'on se dit ah oui, c'est cette poursuite là.
C'est comment une Ford Mustang ?
Une Ford Mustang.
C'est court, c'est long, c'est nerveux, c'est gracieux.
C'est une voiture. En fait, c'était un des patrons de Ford qui a dit en fait tous les jeunes, ils veulent des voitures européennes et on va faire une voiture américaine qui soit comme les voitures de sport européennes. Donc elle est plus courte, plus ramassée, et il y a une idée géniale qu'on retrouve dans tout aujourd'hui du téléphone à n'importe quel objet, c'est que la Ford Mustang, elle peut valoir le prix d'une Renault Clio, vous avez un mauvais moteur, l'intérieur est pas terrible et ainsi de suite, ou elle peut valoir le prix d'une Ferrari. Je vous avoue que celle de Steve McQueen, comme par hasard, vaut plutôt le prix d'une Ferrari, et encore, il a pris la plus chère avec, et il a dit, alors ça j'aime pas, ça il faut me l'enlever, vous allez m'enlever les chromes parce que ça fait pas assez sport, vous allez me rajouter une boîte comme ça. Enfin, il avait une voiture de champion automobile, en fait.
Parce que c'était un fan absolu de voiture,
Il disait même, je ne sais pas si je suis un acteur qui pilote ou un pilote qui fait l'acteur, et c'est le grand drame de sa vie. Lui, il aurait voulu faire toutes les cascades, toutes les poursuites de tous ses films, et à chaque fois, l'assureur du studio disait non. Alors il se débrouillait, il allait faire des petites courses, et puis à un moment l'assureur du studio le retrouvait, il disait non, faut arrêter la compétition. Dans Bully, il n'a pas pu faire les cascades lui-même, dans La Grande Évasion pareil, alors que lui, il avait envie de sauter par-dessus les barbelés, de faire la poursuite dans Bully, mais à chaque fois les assurances lui interdisaient.
Et du coup il a produit lui-même, il a même produit un film sur les 24 heures du Mans, c'est ça ?
Du coup il s'est dit, bon alors là où je vais vraiment pouvoir faire ce que je veux, je produis mon film, ce sera à l'histoire d'un pilote pendant les 24 heures du Mans. Et effectivement, pour préparer le film, il a fait les 12 heures de Sebring comme pilote. Il est quand même arrivé deuxième avec une jambe dans le plâtre, donc a priori il pilotait pas trop mal. Et au dernier moment, ça allait se faire. Quasiment la veille de la course, l'assureur lui dit non, on vous assure pas. Et une fois de plus, il est obligé de ronger son frein. Et c'est après ce film d'ailleurs qu'il va se désintéresser de la course automobile, parce que il investit tout ce qu'il a. Il passe 2 ans à tourner sur le circuit du Mans. Il y a même un pilote qui a un accident où il perd une jambe pendant le tournage du film. Et le film sort et c'est plus ou moins un échec. Lui, il est très content parce que les scènes de course ont été filmés à vitesse réelle, ce qui ne s'est jamais fait, ce qui fait que les fans de voitures adorent ce film. Oui. Il a juste oublié d'écrire un scénario tellement il était passionné par ce qu'il racontait dans son film.
Oui. Il a une très belle formule, Steve McQueen, sur la course automobile. Il dit « La course, c'est la vie. Tout ce qui vient avant ou après n'est qu'attente. »
Donc c'était voilà, la passion donc c'était du bonhomme. Voilà, plus quoi. Un pilote finalement. Et peut-être pour ça qu'il a cette nonchalance, ce côté dégagé dans ses films, qui fait beaucoup pour son charme. C'est que dans le fond, si ça se trouve, dans la grande scène d'amour de la canonnière du Yangtze, lui, il pense « Bon, quand est-ce que je reçois ma Ferrari ?» Parce que...
Allez, une autre grande histoire d'amour entre un homme et sa voiture. Jacques Brandstein, si je vous fais écouter ça, est-ce que vous reconnaissez la course mythique dont il s'agit ? Plus dur.
C'est très très dur même.
Faut pas se dégonfler hein.
Je vais te dire La Fureur de Vivre, mais j'avoue que c'est parce que c'est de la musique de films des années 50 et que j'ai pas mis tant de films des années 50 dans mon livre.
On s'est inspiré de votre livre pour préparer.
Oui, c'est pour ça que je réponds ça, mais c'est vrai que c'était plus difficile.
James Dean dans La Fureur de Vivre, un film de 56. Il est au volant de quelle voiture, Jacques Brandstein?
Franchement, je l'ai oublié. Mais
Chevrolet spécial de luxe 1941.
Vous pouvez la regarder sur Internet. C'est une voiture assez commune, ouais. Puisque c'est une course où en fait, pour voir si c'est une poule mouillée et s'il peut être dans la bande des cools du lycée, ils montent chacun dans une voiture, ils vont vers la falaise et celui qui saute en dernier, c'est la poule mouillée. Non, celui qui saute en premier, pardon. Oui. Oui. Non, ça marche pas du tout mon histoire. Celui qui saute en premier.
Automobile avec vous, c'est trop risqué.
Celui qui saute en premier, c'est la poule mouillée, donc c'est deux voitures volées. Mais ce qui fait que cette scène est devenue plus que mythique, presque inquiétante, c'est que le film sort avec cette scène et un mois avant, il s'est tué dans un accident de voiture.
Ah oui, on l'a raconté il y a quelques mois, puisqu'on a raconté le destin de James Dean dans cette émission, dans La Curiosité, et c'est vrai que les conditions de cet accident mortel. Si on croit un peu aux forces de l'esprit ou aux signes, il y a énormément de signes. Il n'aurait pas dû partir ce jour-là, il n'aurait pas dû prendre sa voiture.
Il ne devait pas partir ce jour-là, et finalement, il ne devait pas avoir la voiture. Elle arrive, il convainc le mécanicien de l'accompagner pour aller à une course. Pas de grande importance, franchement. Il a fait la veille une pub pour expliquer qu'il faut rouler doucement, parce qu'il n'a jamais fait ça. Mais bon, c'est pas grave, il essaye de prêcher la bonne parole. Et... Un croisement, il croise un étudiant qui est d'ailleurs un de ses fans. Et le problème, c'est que sa voiture, en fait, est une Porsche de course qui fait moins d'un mètre de hauteur. Et dans sa grosse voiture américaine, l'étudiant ne le voit tout juste pas. Et l'accident arrive, le mécanicien est éjecté. Et lui ne l'est pas parce que il s'empale sur la colonne de direction. C'est à une époque où il y a même pas de ceinture de sécurité dans les voitures de course. Le moteur d'une Porsche est à l'arrière. Elle fait 500 kilos. Elle est littéralement broyée. Et James Dean aussi.
James Dean qui disait « Rêve comme si tu vivais éternellement ». Alors nous, on continue de rêver. On passe du cinéma à la série, de la Porsche à la Ferrari Magnum dans un instant.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Des stars et des voitures, des étoiles, des rugissements. Bienvenue dans La Curiosité jusqu'à 22h sur RTL et en direct du Mondial de l'Auto à Paris avec notre invité Jacques Brandstein. Vous publiez, je le rappelle, Cars and Stars, duo mythique chez Grund Edition. Et avec vous, on découvre cette passion entre les stars de cinéma ou de la télévision et leurs bolides et leurs voitures de rêve. Tiens, par exemple, quand on entend ça... On est tous là en train de dodeliner de la tête dans le studio RTL au Mondial de l'Auto. Évidemment, on voit apparaître Magnum, Tom Selleck au volant d'une Ferrari. Vous nous la décrivez, cette voiture ?
Et je vois le générique de l'époque. On voit Tom Selleck qui saute dans sa Ferrari, qui descend de sa Ferrari. Et c'est vraiment l'image des vacances parce que il est là dans sa Ferrari décapotable à Hawaï. La vie est formidable. Puis alors, quand il en a marre de sa Ferrari, il prend l'hélicoptère de son copain. Donc c'est assez génial. Et ce qui est complètement improbable, c'est que c'est typique des séries des années 80, c'est qu'ils arrivent à inventer des histoires complètement peu crédible pour expliquer qu'un mec qui revient du Vietnam, qui est vaguement détective privé, mais à la petite semaine et qui se la coule douce, roule en Ferrari parce que son autre boulot, c'est de garder la propriété d'un auteur de best-seller qui s'appelle Robin Master, qui lui prête sa Ferrari. Et donc, c'est vrai que ça a fait beaucoup d'ailleurs pour l'aura de la marque, quoi, de voir cette Ferrari. Je veux dire, le monde entier a vu toutes les semaines cette Ferrari rouler à Hawaï. Et donc, bon, bah voilà, ça devient le rêve absolu.
C'est la Ferrari 308 GTS, c'est ça. C'est ça le modèle.
Alors, c'est pas, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas la Ferrari 308.
C'est elle, mais pas elle.
C'est ça, c'est elle, mais pas elle. Parce que c'est-à-dire, grosso modo, bah, au début de la série, ils achètent une Ferrari 308 GTS. Ils commencent à faire quelques scènes. Déjà, Tom Selleck, qui fait 1m92, se blesse sur le rebord de la portière.
Elle rentre pas dans la voiture.
Bah, pas tout à fait, elle fait 1m14 de haut, elle. Et en plus, c'est quand même une voiture de sport, fragile, des années 70, donc beaucoup moins fiable qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Donc quand vous tournez des scènes, bah, alors vous reculez de 100 mètres, puis vous avancez de 100 mètres, on filme, coupé, on recule de 100 mètres, on avance de 100 mètres. Ça n'aime pas ça du tout, les voitures de sport. En principe, si vous voulez, vous roulez 1 ou 2 km doucement, puis après, vous passez un peu les vitesses, et puis vous la faites chauffer. Résultat, la Ferrari, elle tombe toujours en carafe. Alors on demande à un accessoiriste de créer une fausse Ferrari, qui est un moulage en plastique de la carrosserie, sur un moteur de Chevrolet tout à fait basique, et c'est cette espèce de monstre dans lequel vous ne voudriez même pas monter.
C'est horrible ce que vous racontez. J'ai rêvé devant cette série pendant
toute ma jeunesse. Donc on aurait pu l'avoir, ce moule en plastique là.
Maintenant, parce que c'est celui de Magnum, il vaut une fortune, mais le même, je peux vous le trouver pour pas...
C'est une Ferrari avec une immatriculation assez mythique.
Oui, parce que la Ferrari, c'est Robin One, je crois, et alors il y a l'Audi qui est Robin Two, qui est la voiture de Higgins, qui est le cauchemar de Magnum, parce que Magnum a le droit de vivre dans cette propriété, il y a la piscine, il y a le pavillon de la piscine dans lequel il habite, il y a la Ferrari, il peut y recevoir des jeunes femmes, la vie est formidable, mais il y a Higgins, le majordome anglais.
Et ces deux Doberman.
Qui lui pense qu'il n'est qu'un vigile qui est là pour garder la propriété, qui veut pas qu'il prenne la Ferrari, qui lui envoie les Doberman, qui lui interdit de recevoir des gens à la maison. Et c'est le duo comique de la série.
Allez, on va raconter le destin et le portrait d'une autre voiture et de son héros, de son propriétaire évidemment. C'est dans cette série. Alors c'est le générique de la série Mad Men, série des années 2000, mais qui raconte une histoire qui se passe dans les années 60. Et le héros, Don Draper, est un publicitaire très beau. Et il a une voiture très belle aussi.
Oui, parce qu'il a un très gros coupé Cadillac. Une voiture, aujourd'hui, c'est pratiquement interdit.
Pourquoi?
Voiture, elle fait presque 6 mètres de long.
C'est ingérable.
Vous avez 2 mètres de capot à l'avant, 2 mètres de capot à l'arrière. Et au milieu... 4-5 places en se serrant un peu, mais c'est le symbole du fait que c'est un homme qui a réussi aux États-Unis à l'époque. L'idée, c'était d'avoir 3 voitures, une familiale, un break pour madame, et après, cette voiture 2 portes qui ne sert à rien, qui fait 7 litres, qui consomme 30 litres au 100, mais qui prouve que vous êtes quelqu'un qui a vraiment réussi.
Donc ça, c'est le rôle de... Parce que chaque élément a sa place dans un scénario de série. Donc cette voiture, cette Cadillac coupée de ville, son rôle, c'est ça.
C'est de montrer qu'il est un publicitaire qui a très très bien réussi. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il ne s'en sert pratiquement jamais, puisqu'il travaille à Madison Avenue, dans le cœur de Manhattan, et donc il prend le train de banlieue tous les matins pour aller travailler. Et d'ailleurs, au début, on se dit quand même, pour une série qui se passe dans les années 60, on sent que le scénariste est pas fou d'automobile. Et puis, au fur et à mesure des saisons, faut trouver de nouvelles idées. Et l'automobile prend de plus en plus de place dans la série. D'abord, parce que sa seconde femme s'installe à Los Angeles et là on voit des MG, des Mustang, des Porsche, tout ça. Puis parce que son agence va devenir l'agence de Chevrolet et donc il y a un des mecs de l'agence qui va constamment à Détroit discuter avec les gens de Chevrolet qui n'ont qu'une seule idée, c'est de rouler hyper vite sur la route et d'aller à la chasse. Et le New Yorkais, ça lui fait peur, quoi, ces gens qui sont...
C'est sauvage.
C'est sauvage, exactement.
Allez, autre série américaine, autre voiture... Française cette fois-ci.
Est-ce que vous savez qu'il y a 42 caméras? Il y en a dans les couloirs, il y en a dans les halls d'attente et en transit, les parkings, les toilettes, tous les lieux où le public peut déposer des bagages.
Bon, et alors...
Il y a les boutiques. Eh ben, j'ai regardé la bande de nuit. Elle se versait de la crème. Et voilà que le lendemain, j'entends par hasard deux de ses proches dire en parlant d'elle qu'elle ne prenait jamais de crème.
La voix française de Columbo, évidemment, jouée par Peter Falk, et il conduisait une Peugeot 403 cabriolet. Comment elle arrive dans cette série, cette voiture ?
Écoutez, on ne sait pas. L'acteur français Roger Pierre prétend que 2 ans avant, il avait traversé les États-Unis avec sa 403 cabriolet, qu'elle est tombée en panne. Et que c'est sans doute celle-là qui a été effectivement récupérée pour faire ce tournage. Parce que ce qui arrive quand Columbo commence, le personnage n'est pas très écrit. On sait qu'il va enquêter chez les très riches de Beverly Hills, qui roulent en Jaguar Type, en Bentley Continental et tout ça.
Donc il faut un contraste.
C'est un enquêteur assez basique, d'origine italienne. Et Peter Falk, lui, il vient du cinéma d'auteur new-yorkais avec Cassavetes et il veut que son personnage il ait plus de caractère. Donc il commence par ne plus lui laver ses vêtements, sortir ce cigare, avoir des impairs fripés. On lui dit « Ah, ce serait bien qu'il ait une voiture, quand même, on est à Los Angeles. »
Et prendre une voiture française, ça fait plaisir.
Et donc il va dans le garage, parce que les studios, il y a 1000 voitures qui attendent pour les tournages. Et il prend la plus moche et la plus délabrée, c'est une 403.
Il devait être content, Peugeot.
Ils n'étaient pas contents du tout, parce que pour les saisons suivantes, on leur a demandé s'ils voulaient bien donner de nouvelles 403, et ils ont refusé. Donc ils ont pris des 403 avec un toit et 4 portes, ils les ont cisaillés, ils ont mis une poutre à l'intérieur, et advienne que pourra.
Voilà le destin de la 403 de Columbo. On continue de vous raconter des histoires de voitures. Tiens, et de chanteur John Lennon, lui, il n'assumait pas forcément sa voiture. On va vous raconter ça.
Tu balades avec Jim ?
Allez.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Je me présente, lieutenant Columbo, police de Los Angeles, brigade criminelle.
Sidonie Bonnec.
J'entends par hasard deux de ses proches dire en parlant d'elle qu'elle ne prenait jamais de crème.
Thomas Hugues.
Vous n'auriez pas par hasard un peu de café tout prêt à la cuisine ?
Jusqu'à 22h.
Oh, je suis confus.
Non, je vous en prie.
Vous le direz à personne.
Non,
hein.
Non, ne craignez rien.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Au revoir, lieutenant Columbo.
Je me rappelais pas que j'avais joué dans un épisode de Columbo, mais c'est vrai que j'ai fait ça dans ma jeunesse.
De réécouter la voix française de Peter Falk, ça donne envie. D'abord, ça rappelle des souvenirs, ça donne envie de revoir un épisode. Là, moi, ça a peut-être un peu vieilli, mais on va se faire ça.
Symbole de coolitude, de richesse, d'élégance, pur plaisir mécanique, les stars ont bichonné leur voiture et se sont affichés évidemment avec elle. On fait un tour dans les garages des artistes du monde entier avec le journaliste Jacques Bronstein, qui publie un très beau livre paru chez Grunt avec plein de photos et plein d'histoires. C'est Cars and Stars, duo mythique. Et la traduction, c'est bien, c'est pas que de l'anglais. Alors vous l'ignorez peut-être, mais voici une brochette de chanteurs qui adoraient les belles caisses. Les Beatles, ils étaient fans de belles voitures. Moi, j'imaginais des petits jeunes de Liverpool, un peu modestes, qui roulaient dans des Mini, par exemple.
Oui, alors ça, ils avaient chacun leur Mini. Et effectivement, dans leurs films, on les voit en Mini. Mais dans la vraie vie, c'est quand même des gens qui ont fait des fortunes colossales à 20 ans. Donc, ils se disent, oh bon, peut-être s'acheter autre chose que des Mini en plus. Et, George Harrison, qui est le plus fan de voitures, va collectionner les Ferrari. Gringo Starr a une Facel Vega, la dernière très belle voiture française. Paul McCartney a carrément une Aston Martin.
Oui,
et John Lennon, qui est, on va dire, le plus politique, le plus barré de tous, se dit, comment est-ce que je peux faire, surtout que les années 60 avancent, il y a un peu la révolution qui est dans toutes les têtes, le psychédélisme. Il se dit, comment je peux faire pour avoir une voiture très luxueuse tout en étant dans le mouvement. Et alors, il a cette idée géniale, c'est qu'il s'achète une Rolls et il la fait peindre en caravane de gitan. Et puis après, il se dit, ah, c'était bien.
C'est la Rolls de gauche, quoi, on va dire ça comme ça.
C'est ça, c'était ça l'idée, effectivement. Et après, il se dit, ah, c'était bien. La suivante, il prend une Bentley, il la fait peindre comme si c'était un papillon multicolore.
Ah, il assumait pas d'être multimillionnaire, quoi.
Il semblerait, ou il essayait de tout mixer. Et,
ce qui était assez rusé, parce qu'il avait le confort de la voiture quand même, hein,
c'est ça.
Quand il était à l'intérieur.
Mais de toute façon, toutes les stars des années 60, David Bowie roulait en Daimler, Keith Richards avait une Bentley, comme il n'était pas très organisé. Keith Richards, une fois, il a fait Londres, Marrakech en Bentley avec Brian Jones et Anita Pallenberg. Au départ, Anita Pallenberg était la petite amie de Brian Jones. À l'arrivée, elle était celle de Keith Richards.
Ah,
et Brian Jones ne s'en est jamais remis. Comme quoi, il se passe des choses dans les voitures.
Dans les voitures de luxe.
C'est ça.
Elles sont suffisamment vastes, spacieuses et confortables. On imagine ce qui a pu se passer. La voiture, symbole de classe, tient aussi pour un crooner très élégant. I took a trip on a train and I thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you. Frank Sinatra, évidemment, on le voyait à bord de quelle voiture, Frank Sinatra ?
Écoutez, il a eu toutes sortes de voitures, et ce qui est assez amusant, c'est que Frank Sinatra, qui est quand même le style incarné, l'élégance classique américaine, avait pas toujours très bon goût en matière de voiture, parce que c'était aussi quelqu'un qui habitait la moitié de l'année à Las Vegas.
Il était bling bling un peu.
Voilà, hein. Il a eu beaucoup de voitures bling bling. À la fin de sa vie, à 50 ans, enfin à la fin de sa vie, à 50 ans, il avait une Lamborghini orange. Je ne sais pas si c'est du meilleur goût. Et finalement, le moment où il a la voiture qui lui va le mieux, c'est-à-dire un cabriolet Ford Thunderbird bleu marine parfait, wow. C'est le moment où ça marchait pas, où ses disques se vendaient un peu moins. Il avait du mal à trouver des rôles. Là, il a fait quelque chose de plus léger et ça lui va parfaitement parce que ça lui ressemble. C'est la voiture la plus chic des années 50 avec à l'intérieur le crooner le plus chic des années 50.
Alors moi j'avoue, j'ai un faible pour la Pink Cadillac d'Elvis Presley.
Lui aussi, vous savez.
Cadillac Rose, c'était sa voiture préférée, Jacques Brunstein ?
Oui, c'était sa voiture préférée parce que quand il n'avait pas un sou, il disait toujours à sa mère, un jour je serai célèbre et je t'offrirai une Cadillac Rose. Et avec l'argent de son premier disque d'or, pratiquement, il a pu offrir la Cadillac Rose à sa mère qui malheureusement n'en a pas profité très longtemps puisqu'elle est morte 2 ans plus tard. Et après, ça a été le début de la fin. Vous savez que Elvis Presley, avait un tempérament addict, que ce soit avec la drogue, les femmes, la nourriture, et avec les
et
voitures
les voitures,
aussi.
Il les collectionnait?
Mais maintenant, c'est même pas qu'il les collectionnait.
Il les achetait, il les jetait, quoi.
C'est ça, à chaque fois qu'il rentrait, qu'il voyait une concession automobile, il allait, il en achetait 2-3. Il avait des dizaines de Cadillac, de Rolls, des voitures de sport, il avait une Ferrari sur laquelle il avait rien trouvé de mieux que de mettre des jantes à rayons, comme sur une Rolls des années 50. C'est un peu n'importe quoi, sa collection.
On la voyait, ces voitures, il avait un garage immense. Il avait un garage immense,
et
c'était stocké où, si j'ose dire.
Vous pouvez encore aujourd'hui, si vous allez dans son ranch
à Memphis,
ouais. Vous pouvez encore voir sa collection automobile, puisqu'il y a des centaines, des milliers de visiteurs chaque année. On n'a rien vendu, tout est là, du plus chic. La Cadillac de sa mère, enfin il y en a même 3 des roses, donc faut demander pour savoir laquelle est la bonne. aux choses, notamment les Stuss Beckard, qui sont des voitures complètement improbables. Grosso modo, c'est une énorme Cadillac des années 50 sur laquelle on a mis une calandre avant et des échappements sur les côtés de voitures des années 30. Et il s'est battu avec Frank Sinatra pour savoir celui qui aurait le premier cette voiture monstrueuse, et c'est Elvis Presley qui a gagné.
Bon, et les femmes, ça vous étonnera pas, nous aussi on aime les belles carrosseries,
j'espère bien.
La vitesse comme l'écrivain, et les accidents aussi parfois comme l'écrivain François Sagan. Là tout de suite les curieux.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
I took a trip on a train and I thought about you.
On est toujours en direct du Mondial de l'Auto à Paris. C'est l'ouverture aux invités. Il y a Sidonie qui me fait des grands signes parce que on vous dit tout. On a changé de place pour préparer le studio RTL qui est au Mondial de l'Auto.
Pour l'arrivée d'Agnès Bonfillon
et de Christophe Paco pour RTL Grand Soir. Du coup, on est l'un en face de l'autre avec Sidonie.
C'est vrai qu'on fait un grand dîner.
Ça nous arrive jamais. Voilà.
Avec un invité.
Et notre invité, c'est Jacques Brunstein.
On chouchoute bien.
Qui publie Cars and Stars, duo mythique. C'est chez Grund. Allez, on va parler d'une grande auteur, écrivain français, François Sagan, qui adorait les voitures de sport. C'est l'une des images de Sagan et sa voiture,
oui,
et sa
Sagan
décapotable.
Qui conduisait les pieds nus, ça paraît un cliché, mais non, c'était la vérité. En gros, quand elle sort Bonjour Tristesse, elle a un énorme succès, et son père lui dit, écoute, avoir autant d'argent à ton âge, c'est dangereux, dépense-les. Alors elle ne se fait pas prier. Immédiatement, elle achète une Jaguar, le plus beau coupé Jaguar de l'époque, la XK120, et elle fonce à Saint-Tropez, conduire les pieds nus. Elle aura quand même cette phrase qui montre à quel point elle aimait ça. Elle disait « Qui n'aime pas la vitesse, n'aime pas la vie et n'a peut-être jamais aimé personne ». Par contre, son père avait un peu tort quand il lui disait « Oui, c'est peut-être moins dangereux que tu le dépenses, puisqu'elle va continuer les voitures de sport, continuer à rouler de plus en plus vite, et elle va avoir un accident qui a failli être mortel avec une Aston Martin DB2 cabriolet. Mmh. » Et elle se retrouvera pendant plusieurs mois en rééducation, et c'est là qu'elle deviendra toxicomane.
Ah oui, donc avec d'extrêmes conséquences pour elle. C'est en 1957 cet accident. Et il a lieu comment? Vous connaissez les circonstances?
On sait qu'il était tard, on sait qu'il y avait du gel.
Vous n'étiez pas.
Voilà, on sait qu'il était tard, on sait que la roue était gelée. On ne sait pas dans quel état était
François Sagan,
qui devait revenir de chez Castel ou chez Régine pour aller dans la maison de campagne d'un ami à elle. Peut-être n'était-ce pas très prudent.
Surtout qu'elle dit d'un certain côté, c'est vrai que j'aimais les Ferrari et l'alcool. J'ai claqué des centaines de millions anciens. Comment j'ai fait? Je ne sais pas. C'est vrai que j'aimais les Ferrari et l'alcool, c'est joli.
On se fait plaisir là de citer François Sagan, mais il y a une autre phrase qu'elle dit à propos de la vitesse. La vitesse décoiffe tous les chagrins. On a beau être amoureux, fou en vain, on l'est moins à 200 km/h. Elle grillait comme ça sa vie au volant de sa voiture.
Toute sa vie, elle a grillé sa vie au volant. Elle a eu les plus belles Ferrari, les plus belles Jaguar, des voitures de course comme une Gordini. La voiture était faite pour faire les 24 heures du Mans. Elle a dit non, moi je la veux, je l'achète. Et elle roulait à tombeau ouvert sur les routes d'Île-de-France avec cette voiture-là. Et même à la fin de sa vie, elle était ruinée. Elle avait une AX Sport, ce qui n'est pas grand-chose, mais il n'empêche qu'elle roulait à 120 dans Paris avec son AX Sport, parce que une voiture, c'est fait pour avancer, quoi.
Et on parle des femmes et de la voiture, c'est pas anodin. La voiture, c'est aussi un symbole de liberté et d'indépendance, et dès les années 20, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Les stars d'Hollywood, dès les années 20, les stars d'Hollywood rivalisent avec leurs homologues masculins pour avoir les plus belles voitures, pour avoir des Cadillacs, des Packards. Il y a certaines stars qui collectionnent littéralement les voitures. Et ça a été vraiment un symbole, ces stars d'Hollywood qui conduisaient leurs propres voitures. Elles avaient les moyens d'avoir 3 chauffeurs, 10 limousines. Mais non, elles voulaient être au volant de leur Cadillac pour montrer qu'elles étaient des femmes libres.
Parce que peu de femmes conduisaient à l'époque. Donc c'était une grande comédienne. Ça peut être aussi un modèle pour d'autres femmes dans la société.
Vous pensez à qui, par exemple? Ouais.
Je ne sais pas, Rita Hayworth, quelle voiture elle conduisait, Rita Hayworth?
Rita Hayworth, dans mon souvenir, elle a eu une Cadillac. Elle a aussi eu une Packard, qui était encore plus chic que Cadillac. Bon, malheureusement, la marque a disparu.
Et vous, Jacques Brandstein, qui écrivait sur les voitures, qui a publié ce bouquin chez Grün Cars and Stars, duo mythique, vous roulez avec quoi?
Je vais vous décevoir, je roule en vélo. Bon, il est vintage. Il est vintage, j'ai un peu rouillé, mais je sens que je vous déçois. Non, j'ai eu des voitures, j'ai eu un coupé Lancia des années 60. Et le problème, c'est que rouler avec ça à Paris, c'est de la folie furieuse.
C'est pas raisonnable.
Non, franchement, c'est-à-dire qu'en fait, les pare-chocs étaient très bas. Donc, au fur et à mesure que je réparais le moteur, la carrosserie était de plus en plus abîmée. Et j'habite dans le centre de Paris. Un jour, ça a été impossible, mais j'adorais ça. Ça démarre rarement. On a beaucoup de problèmes. Mais quand ça part et qu'on entend le bruit du moteur et qu'on voit le volant en bois, ça change la vie, effectivement.
Mais c'est vrai que c'est une tendance. Il y a vous, Jacques Brandstein, à Paris, mais il y a aussi Leonardo DiCaprio aux États-Unis. Lui, il roule carrément dans une Tesla électrique. Ça a changé aujourd'hui. Les stars américaines, par exemple, préfèrent s'afficher avec des hybrides ou des voitures vraiment écolo.
C'est plus un symbole.
Vieille voiture.
C'est plus un symbole pour la star hollywoodienne. Autant les footballeurs, les rappeurs continuent à avoir les derniers modèles.
Les Hummers, les grosses voitures.
Voilà. Mais ce qui est un tout petit peu moins chic que les stars hollywoodiennes, pour la plupart, roulent en voiture électrique pendant des années. Alors ils étaient très très vertueux, ils ont roulé en Prius. Et puis il y a le milliardaire californien qui s'est dit, tiens, ces stars hollywoodiennes qui roulent quand même dans des voitures très basiques, il y a un marché, il a créé la Tesla. Donc maintenant il existe la voiture écologique pour stars. Elle est pas mal, mais du coup ils ont un peu tous la même, de Brad Pitt à Leo DiCaprio.
Ouais. Ah ouais, si
vous avez testé l'accélération de la Tesla.
Si, oui, je suis monté une fois, ils m'ont dit non, vous pouvez pas impressionnant. Conduire. Vous pouvez pas conduire, asseyez-vous à côté. J'étais très vexé. Puis alors quand il a accéléré, je me suis dit non, c'est mieux que ce soit lui qui soit.
Effectivement, parce que là on a
très vite.
Ah oui, on a une sensation d'accélération qui est complètement.
On décolle, c'est une fusée,
complètement
quoi.
Dingue. Mais dans cette voiture,
toute la puissance arrive d'un coup. Voilà. Il faut pas attendre le temps que le moteur chauffe et tout ça. Bon, après c'est un peu moins vivant parce qu'une fois que toute la puissance est là.
Jacques Brandstein, le cinéma d'aujourd'hui, il a la nostalgie des belles voitures.
C'est-à-dire que maintenant, effectivement, quand on voit des belles voitures dans un film, c'est quelque chose d'un petit peu nostalgique. C'est Drive, où Ryan Gosling conduit une voiture de 73, une Chevrolet Chevelle, je crois. Mm-hmm. C'est Fast and Furious, où ils passent leur temps à voler des voitures et à réparer des voitures des années 70-80. C'est Boulevard de la Mort de Tarantino, où il n'y a que des voitures des années 70. Aujourd'hui, alors qu'il y a encore de très belles voitures, mais je dirais que, quelque part, la voiture dont on rêve, c'est la voiture des années 50 à 80, parce que non seulement elle est plus belle peut-être, ça c'est un avis, oui, que celle d'aujourd'hui, mais qui plus est, elle incarne une liberté d'une époque où on mettait pas sa ceinture, où on roulait à la vitesse qu'on voulait, où on pouvait boire au volant, enfin,
on fumait partout.
Qui aujourd'hui, c'est de la science-fiction.
C'était la fureur
quoi,
de vivre,
c'est ça
quoi.
Qu'on a envie de voir dans un film.
Merci infiniment, Jacques Bronstein. Je rappelle que vous publiez ce livre, Cars and Stars, duo mythique. C'est aux éditions Grun, avec beaucoup de destins, beaucoup de photos, beaucoup de très belles voitures. Et puis aussi,
Il y a même Patrick McNee et sa Bentley. Vous vous souvenez de la série Chapeau Melon?
Bien sûr.
Oh, c'était génial.
Moi, j'avais juste les bottes de cuir.
Et moi, le chapeau melon, alors, c'est ça, on fait le duo.
Dans le dernier JQ, Jacques Bronstein, il y a aussi des pages spéciales consacrées à ces histoires, à ces duos mythiques et de très belles photos. On vous recommande la lecture de ces deux opus. Merci encore.
Merci.
C'est la fin de cette émission.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.